Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons partager deux lectures, deux textes. Le premier dans l'Ancien Testament. Alors, un passage du livre prophète Ésaïe, que l'on connaît très bien, c'est Ésaïe 53. Alors, Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Alors, voilà ce que nous avons sous les yeux. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voici pour la première lecture. La deuxième, nous allons la faire dans la lettre de Paul aux Romains, et nous allons lire au chapitre 5, Romains chapitre 5, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, à vrai dire, c'est vrai que les écrits de l'apôtre Paul sont quelquefois, pour celui qui n'est pas initié à la lecture de la Bible, un petit peu compliqués. Mais on va essayer de rendre les choses simples à travers une image, tout simplement, une image qui va nous permettre de saisir l'œuvre, le travail accompli, cette grâce que Dieu a fait aux hommes, c'est-à-dire qu'il n'appartient plus aux hommes, où l'homme n'a rien à faire, je dis bien rien à faire, pour faire ou fabriquer son salut, puisque tout a été fait par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on en appelle la substitution, c'est encore un grand mot, mais quelqu'un qui prend la place d'un autre. Dans l'Ancien Testament, vous en souviendrez, dans les lois religieuses d'Israël, il y avait ce que l'on appelait le bouc émissaire, celui qui portait les péchés du peuple et qui était envoyé dans le désert. Alors, on est confronté finalement avec cette dispensation aujourd'hui. Qui que nous soyons, les uns et les autres, nous sommes sous le régime de la grâce. Voilà. C'est vrai que l'homme par nature a toujours des aspects en lui-même, des tendances ou des aspirations religieuses, qui dans sa conscience l'amène à se sentir obligé à faire quelque chose pour plaire à Dieu. Et lorsque nous avons ouvert le livre du prophète Ésaïe, lorsque nous écoutons ce que Paul écrit et que nous avons lu ensemble, nous nous apercevons que la grâce et la miséricorde de Dieu est infinie. Ça, je pense que c'est important de le souligner, parce que nous sommes souvent sous le coup de la culpabilité de ne pas être, ou de ne pas faire, ou de ne pas faire assez, de vouloir quelquefois, eh bien, racheter le mal par le bien. Mais quelqu'un l'a fait à notre place. Et c'est ce qu'écrira d'ailleurs Paul dans cette fameuse lettre. Il l'écrira ailleurs. Mais j'ai trouvé ce texte en correspondance avec la prophétie d'Ésaïe. On y reviendra à la fin. Mais dire quelques mots quand même de ce que l'apôtre Paul avait compris pour lui-même. Et Paul était un homme extrêmement religieux, extrêmement zélé dans la foi juive, et tout était fait avec des ordonnances, avec des préceptes, avec des commandements. Et il a compris un jour que tout cela, eh bien, était passé, que ça ne servait plus à grand-chose, parce que celui qu'il avait combattu, c'est-à-dire Jésus-Christ, la foi dans cette nouvelle religion que l'on appelait chrétienne, Paul, avec une illumination, eh bien, avait compris que tout cela, eh bien, avait été résolu par Dieu. Et que l'homme pouvait s'approcher désormais de Dieu, simplement tel qu'il est, dans un acte de contrition, un acte de repentance, pour recevoir le pardon de Dieu, et qu'à ce moment-là, il faisait l'expérience d'une vie nouvelle. Un déchargement, un soulagement de ses fautes, de ses erreurs, de ses péchés, qui lui procurait, eh bien, l'assentiment de Dieu par le pardon, par la paix qu'il avait, qu'il a, qu'il trouve aujourd'hui encore dans son cœur. Alors, il l'écrira, et il dit ces paroles parce qu'elles sont belles, elles sont sublimes, et l'évangile sera toujours l'évangile, quels que soient les temps et quels que soient les hommes, à toutes les époques. Et il dit ceci, « Lorsque nous étions encore sans force. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette force dont il est question? Eh bien, c'est précisément un petit peu paradoxal parce que tant que l'homme s'est senti fort pour faire quelque chose pour plaire à Dieu, eh bien, dans une certaine mesure, c'est là justement où il ne pouvait pas atteindre Dieu. Parce que ça veut dire tout simplement que l'homme est capable de se sauver par lui-même, par ses propres efforts, ou par ses qualités d'homme, par toutes sortes de choses. Et entre autres, il a mis en bonne place dans sa vie, eh bien, le fait religieux. C'est-à-dire d'appartenir à une religion et de se donner une bonne conscience en suivant les préceptes de sa religion. C'était l'histoire des Juifs et c'est l'histoire encore d'un certain christianisme de multitude aujourd'hui. On se couvre derrière une religion qui nous donne des commandements, qui nous donne des obligations, qui impose à toute conscience certaines choses. Mais ce n'est pas avoir bien compris l'évangile, puisque à partir du moment où Jésus est monté à la croix, il est mort pour chacun d'entre nous, et que ses dernières paroles sont sorties de sa bouche à destination du monde entier d'hier et d'aujourd'hui, où Jésus prononcera ces mots « Tout est accompli ». Et le « Tout est accompli », eh bien c'est ce que nous avons lu ce soir. Le « Tout accompli ». Que puis-je faire, Seigneur? Qu'est-ce que je pourrais encore eh bien te présenter pour être agréé de toi? Vous savez, la réponse de Dieu, elle est toute simple, c'est la foi. C'est pas de faire, c'est de croire. Deux verbes, ce n'est pas de faire, mais c'est de croire. Faire, on peut toujours faire. Croire, on peut si l'on veut. Et ça, c'est laissé finalement à notre discrétion. Mais c'est pas peut-être aussi facile qu'on le pense, parce que les résistances, elles ne sont pas du côté de Dieu, elles sont de notre côté. Comment puis-je croire à un si grand salut? Comment puis-je comprendre que quelqu'un a donné sa vie à ma place pour moi? Alors, on a du mal finalement à intégrer cette pensée évangélique. Et il parlera, Paul, il dira, mais lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions sans la force de la foi, croyant à la grâce et au pardon de Dieu, alors à ce moment-là, au temps marqué, Christ est venu dans le monde. Ouais. Dans la désespérance que pouvaient rencontrer les hommes d'hier et d'aujourd'hui, que nous pouvons rencontrer encore, dans la désespérance finalement de nous sauver nous-mêmes. Et c'est quand on désespère de soi-même qu'à ce moment-là, Dieu intervient. Désespérer, c'est pas très agréable. On a souvent le sentiment de vouloir être en pleine forme, en forme physique naturellement, ça c'est la santé, mais en forme morale, en forme peut-être au niveau de notre esprit, et on se dit alors avec ça, avec ce bagage qui est en moi, l'énergie, le potentiel qui est en moi, eh bien, ça va bien, je suis heureux, tout va bien. Alors que le Seigneur est venu chercher des gens qui pleurent sur eux-mêmes. C'est ce que l'on appelle la mort à soi-même. C'est ce que Jésus dira d'une autre façon quand il le parlera de cette manière. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être sauvé, recevoir le salut de Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et c'est ça justement tout le mystère. Et ça dépasse l'entendement de ceux qui veulent faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour te plaire? Qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi je pourrais m'astreindre pour que véritablement tu tournes les regards vers moi et que tu me donnes un peu de paix, un peu de ta grâce dans mon cœur et dans ma vie? Eh bien, c'est justement le chemin opposé qu'il faut prendre. C'est quand, et ça c'est l'esprit du sermon sur la montagne et des béatitudes, heureux serez-vous lorsque vous pleurerez à cause des injustices, à cause des persécutions, à cause de ce que vous vous sentirez pauvre, pauvre d'esprit, pauvre dans vos forces physiques, dans vos forces morales. Alors à ce moment-là, Jésus nous dit le contraire, il nous dit, mais heureux serez-vous. Parce que c'est ainsi, et ce sont ces prédispositions et ces dispositions dans notre cœur qui fait que Dieu, eh bien, vient à notre secours. Un naufragé sur l'océan, ou quelqu'un qui se noie dans une rivière quelconque, eh bien, il va crier au secours, il va crier après un sauveteur ou après un sauveur. S'il ne crie pas, eh bien, il va rester tout seul, il va couler. Eh bien, c'est ça, justement. Et parfois, les situations de notre vie dans lesquelles nous traversons des angoisses, nous sommes confrontés avec des perplexités, avec des tourments, avec de grands défis, avec, à l'intérieur, une dualité, eh bien, dans un premier temps, est fait pour que nous crions à Dieu. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sauve-moi. Et à ce moment-là, nous allons comprendre. La parole de Dieu va nous faire comprendre. L'Esprit de Dieu va nous convaincre à l'intérieur de nous-mêmes que c'est dans un parfait abandon entre les mains de Dieu, de ce que je ne peux rien faire, mais que lui, il peut tout. À ce moment-là, c'est là où la lumière apparaît dans ma vie. C'est ce que l'on appelle naître de nouveau. Il y a tant de résistance dans nos vies. Alors, je voudrais quand même vous dire que nous sommes passés par là. Je le dis en connaissance de cause parce que je pourrais pas vous parler comme ça si je n'y étais pas passé. Et des amis qui sont là ce soir, eh bien, pourraient dire la même chose. C'est quand nous avons cessé de nous battre avec nous-mêmes, quand nous avons déposé le fardeau devant Dieu, quand nous renonçons à vouloir montrer quelque chose à Dieu, ou vouloir ceci ou cela devant Dieu, alors il nous est dit que Dieu a envoyé au temps marqué Christ à notre place, parce qu'il est mort. Pour que nous puissions vivre, il a fallu que Christ meure. Il a donné sa vie pour nous. Et il l'a donné pour, il est dit, des impies. Le mot impie, ce sont pas des incrédules. Les impies, ce sont des croyants, dans le sens général, mais qui finalement, eh bien, soit ne vivent pas ce qu'ils croient, ou alors ont détourné finalement, eh bien, la vérité de son sens, de sa pleine signification. Alors, il nous est simplement dit que Christ est mort à notre place, tout simplement. Alors, l'apôtre Paul va poursuivre, il va poser cette forme de question. Il dira, mais à peine mourrait-on pour un juste? Est-ce que quelqu'un d'entre nous donnerait volontairement sa vie pour un autre homme? Je sais que par temps de guerre, certains l'ont fait. Hein? Certains ont connu le martyr pour donner, pour sauver, soit un homme, ou voire même des populations. Mais il faut quand même une sacrée dose d'amour, hein? D'abnégation, parce que notre vie, elle est précieuse, elle est unique. Et quand on a la vie, on la garde. Hein? Alors la donner gratuitement, gracieusement pour quelqu'un d'autre, mais c'est ce que Dieu a fait finalement. Et il nous est simplement rappelé, est-ce que quelqu'un mourrait pour un juste ? Et un juste, quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui a la réputation, il a l'honneur. Un juste, quelqu'un qui serait véritablement indemne de mal, de tout mal. Mais quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, c'est la même chose. Alors, peut-être qu'on le ferait, mourir pour à la place d'innocents, de dire, eh bien voilà, moi, pour sauver la vie de ces gens-là, de ces enfants par exemple, eh bien, je vais donner ma vie, je vais laisser ma vie, je vais mourir. Mais voilà que nous avons une preuve, bien au-delà de tous les raisonnements humains, il nous est dit que Dieu nous a prouvé, et nous prouve encore, son amour envers nous, non pas parce que nous sommes des gens de bien, non pas parce que nous sommes justes, mais envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des misérables, des pécheurs, des batailleurs, des combattants, des rebelles, tout ce que vous voudrez, eh bien écoutez, il nous est dit que Christ est mort pour nous. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai la vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir la vie pleine et entière, parce que Jésus, eh bien, a pris fait et cause en lieu et place pour moi, pour que lui, par sa mort, moi, je vive. C'est une substitution. Et ça a un autre terme dans la Bible. Ça s'appelle rédemption. Ce sont des mots aussi un petit peu théologiques. Mais la rédemption, c'est tout simplement le rachat de quelqu'un. C'est important de prêcher cela et de le dire, parce que c'est véritablement la constitution même de l'Évangile et de son esprit. Racheté. Alors vous avez certainement tous entendu... Heureusement, on en voit rarement et c'est bien. Mais il y a eu un temps dans notre pays où des hommes étaient des ravisseurs. Ils prenaient un enfant pour avoir une rançon et menaçaient de mort. Bon, hein, je sais que dans certains pays aujourd'hui, ça se fait couramment, c'est horrible. Hein. On prend des gens et puis voilà, ils seront rendus que dans la mesure où il y aura une rançon. Eh bien, c'est exactement cela, c'est payer une rançon. Et figurez-vous que Jésus a payé la rançon pour que nous puissions être délivrés et libérés. Ouais. Et c'est lui qui l'a fait. Pour que devant Dieu, la justice de Dieu soit accomplie, mais ce n'est pas une rançon en argent, c'est une rançon par le sang. Et le sang, c'est la vie. Celui qui perd son sang, eh bien, il perd la vie, c'est normal. Hein, c'est tout à fait compréhensible. Alors, il nous est simplement rapporté que lorsque nous étions encore dans cet état d'ignorance, peut-être de rébellion, d'éloignement de Dieu, eh bien quelqu'un avait pensé à nous, et ce quelqu'un c'est Christ, et avant même que je vienne, que vous veniez à l'existence sur cette terre, le problème était déjà résolu. Ça fait 21 siècles que le problème est résolu. Vous savez que dans l'ancien Israël, la règle c'était la loi. La loi se décliner de cette manière, quiconque mettra ces choses en pratique vivra. J'ai bien dit vivra. Il y a une supériorité dans le Nouveau Testament que ce n'est plus, même si ça a la même consonance, ce n'est plus la loi, mais c'est la foi. Et à la fois, oui, la confiance ou la foi, pour pas faire un doublon, mais la foi a une supériorité sur la loi, c'est que non seulement elle nous fait vivre, mais elle nous sauve. Il y a un crescendo. Ça va en crescendo. Et je vis parce que Christ est mort. Et le cœur même, et l'expression même de l'Évangile, eh bien c'est tout simplement la mort de Jésus. Pour que les gens aujourd'hui puissent véritablement, eh bien, adhérer, souscrire, répondre à cet appel, croire finalement que les choses sont ainsi. Alors je sais que mes paroles pourraient sembler peut-être une étude théologique, hein, mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire ce soir, qui va beaucoup plus loin qu'un homme qui parle. C'est que je suis tout à fait convaincu que nous ne sommes pas seuls ce soir. Le Saint-Esprit est là. Et quand on parle de la croix, quand on prêche Jésus mort et ressuscité, par-delà ce que vous savez déjà pour certains, peut-être d'autres... Certains vont trouver une autre dimension, peut-être un éclaircissement ou un éclairage, voilà ce que je voulais dire. Parce que le Saint-Esprit est là pour montrer peut-être des vérités qui nous sont restées méconnues Et je suis convaincu que par-delà des simples paroles, dites avec un langage simple, eh bien, il y a une action du Saint-Esprit qui fait que, en entendant ces paroles mêmes, pour tous, pour moi, pour vous, vous compreniez que le Saint-Esprit est là à l'œuvre pour nous amener à une conviction de notre perdition, une conviction de la justice de Dieu qui demande de croire et non pas faire, et que nous puissions avoir finalement eh bien, cette grâce et le pardon que Dieu nous donne. Ça, c'est le cœur même, et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cela. Il est à l'œuvre pour nous montrer qu'il n'y a pas de salut, on l'a chanté. Il n'y a pas d'autre nom que la foi en Jésus-Christ. Et que dans le sacrifice de Jésus, que sa rédemption a été accomplie, donc ce rachat pour chacun d'entre nous, et que c'est lui qui a payé finalement la somme sanglante pour qu'aujourd'hui je puisse vivre et que je puisse être sauvé. Alors, Dieu prouve son amour. Dieu ne prouve pas ses exigences, ne prouve pas sa rigueur, ne prouve pas qu'il est souverain et qu'il est maître de toutes choses. Il prouve son amour. Et ça, c'est encore aussi quelque chose dont nous avons besoin d'intégrer. Dieu nous aime. Il n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Et il est venu le faire par amour. En revenant à la métaphore où nous parlions il y a un instant de ceux qui seraient capables de donner la vie pour un juste ou pour un homme de bien. Souvent, on le fait par patriotisme, le plus couramment. On le fait parce qu'on défend des idées, une idéologie, un espoir de vie meilleure pour l'avenir, pour nos consemblables, nos concitoyens ou pour nos enfants. Pas forcément par amour. Parce que il y a des idées qui, quelquefois, peuvent, là, remplacer le véritable amour, et puis des motivations très fortes qui peuvent remplacer l'amour. Mais en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Jésus, c'est par amour qu'il a fait. D'ailleurs, je vous le rappelle pour mémoire, mais quand dans la parole de Dieu, le cœur même de l'Évangile, quand il est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Voilà. Et là, ça fait partie des paroles dont, je crois, le Saint-Esprit se saisit pour convaincre nos cœurs de la nécessité de nous approcher de Dieu, d'aller plus loin avec lui et de nous donner complètement et totalement, et nous allons voir les conséquences d'ici quelques instants. Alors, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, la justification, c'est pas que nous sommes justes nous-mêmes, mais nous avons été rendus justes par la foi en croyant que Jésus a pris notre place. C'est pour ça que nous sommes justifiés. Il n'y a pas d'autre manière de dire. Alors, à ce moment-là, nous serons sauvés. Dans le texte, il est parlé de la colère, du jugement, de la condamnation. Mais nous serons sauvés, tout simplement, de l'état dans lequel, inexorablement, notre vie vécue dans l'ignorance de Dieu ou dans l'indifférence de Dieu va nous conduire, c'est-à-dire à la perdition. Nous serons sauvés de la perdition. Ce sont des mots qui sont forts. Ce sont des mots qui ont une signification, une valeur. Et je crois que beaucoup de gens passent là-dessus parce que l'ennemi les a rendus complètement inconscients de tout le sens et le but de la vie. Alors ils se disent, oh, il ne doit pas y avoir d'enfer, il ne doit pas y avoir de ciel, il ne doit pas y avoir de Dieu, il ne doit pas y avoir de diable. Il n'y a pas le bien et le mal, ou alors c'est très relatif. Hein. Vous savez, hein, la philosophie de le relativisme. Alors on se dit, finalement, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la Terre? À quoi peut avoir de sens l'humanité et son existence ici-bas? Parce que si nous sommes là pour repartir, c'est pas cela. Il y a un autre but. Tout le monde s'accordera dans l'univers entier, enfin, sur cette planète, pour dire qu'il y a quand même des réalités qui sont là. Et on les connaît, hein. Peut-être d'une manière très primaire, mais on les connaît quand même. On sait faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Entre la vérité et l'erreur, on le sait, ça, il n'y a pas de problème. Alors on sait très bien que, d'une manière inéluctable, celui qui pratique le bien ira vers le bien, et celui qui pratique le mal ira vers le mal. Mais c'est pas suffisant de le savoir. C'est que nous sommes tous dans le mal, d'une façon ou d'une autre, à différents degrés, à différents stades, parce que regardez, il nous est dit qu'à un moment donné, lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions encore des pécheurs, il n'y a pas d'acception de personne. C'est un ensemble. Et je veux dire que l'appel de Dieu résonne pour faire sortir ceux qui sont tout simplement sensibles à cet appel de prendre conscience que s'il n'y a pas le tout accompli pour moi dans ma vie réalisé par Jésus, eh bien, je reste perdu. C'est dramatique une chose pareille. Mais c'est pourtant la réalité. D'ailleurs, cette réalité, je voudrais simplement faire la démonstration avec une petite preuve. Pourquoi les gens ont-ils peur de la mort? Oui. Bon, certains vous répondront, moi j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir pour mourir. Ça, c'est une chose, et on le conçoit. Mais moi, je pense que l'homme qui vit sans Christ est particulièrement interpellé parce que il ne sait pas où il va. Il va vers l'inconnu. Et c'est peut-être justement son appréhension de devoir quitter cette vie et de ne pas avoir fait ce qui était tout à fait ce qui est nécessaire justement pour avoir une conviction, une certitude pour le monde de l'éternité. Ça, c'est aussi notre réalité. Car lorsque nous étions ennemis, nous dit Paul, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous savez ce que c'est qu'une réconciliation? Et c'est pourquoi le terme ennemi est bien noté sous nos yeux. Des belligérants, des gens qui s'opposent, des gens qui se font la guerre, qui sont en inimitié, qui sont adversaires à mort. Et ce lien, ce rapprochement, cette relation, cette communion, cette jonction entre des choses antinomiques, eh bien, c'est Christ qui nous a réunis. Des deux, il en a fait un. Et aujourd'hui, on ne peut pas être sauvé autrement que par la foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus que Dieu a donné pour que la créature retrouve son créateur, qui va devenir à ce moment-là non seulement son créateur, mais qui va devenir son sauveur et le seigneur de sa vie. Voilà le processus qui est mis en route. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors à combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et voilà. C'est simple. J'essaie de décoder un petit peu ce texte difficile, mais serons-nous sauvés à cause de la vie qu'il a donnée? Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui maintenant nous avons obtenu, par lequel nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions. Oui. On a souvent prétendu que les chrétiens sauvés par la foi étaient des orgueilleux. Ça a été le grand débat au moment de la réforme au XVIe siècle devant les religions qui proposaient un salut par les bonnes œuvres en disant « Mais vous, les protestants, c'est si facile. C'est si facile de prétendre alors de prétendre que vous êtes sauvés uniquement en faisant confiance à Dieu. » Mais oui, mais c'est ça justement. Parce que en cela, nous n'avons rien à récupérer. Il n'y a rien à faire valoir. L'apôtre Paul nous le dira, et je voudrais le rappeler ce soir, c'est peut-être des choses à redire, et quand il écrira en prolongement de ce que nous avons dit, il dira, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est une grâce de Dieu, c'est une faveur, c'est un cadeau de Dieu, vous y êtes pour rien. C'est par la foi que vous êtes sauvés, mais ce n'est pas par les œuvres. Vous savez pourquoi? Parce que les œuvres, dès qu'un homme commence à faire une œuvre, dans un sens ou dans un homme, dans un autre, pour son semblable ou pour Dieu, eh bien il s'en glorifie. Il se dit, mais c'est grâce à moi. Et là, justement, ça éteint toute prétention et toute vanité de l'homme de dire, eh bien, je me suis sauvé quand même moi-même. Alors pourquoi Christ serait-il mort? Pourquoi Dieu a-t-il livré Jésus à la croix pour mourir à notre place si véritablement nous faisons les choses? Si nous les faisons nous-mêmes? Et ça, je crois que c'est une déviation profonde, tragique, que les religions chrétiennes ont amené, ont répandu dans le monde, qu'on pouvait être sauvé autrement que par la foi simple en Jésus-Christ. Tout simplement. Je voudrais vous raconter une histoire. Maintenant, on va passer à des choses qui sont un petit peu plus... à sortir un peu de la théologie. Et vous allez comprendre la place qu'a eu Jésus véritablement pour le salut des hommes, vous et moi. C'est une petite parabole, une histoire. Un garçon et son père circulaient sur une route. C'était certainement à la belle saison. Et comme il faisait très beau dans la campagne, aux alentours, les vitres de l'automobile étaient abaissées, comme quelquefois, eh bien, par temps de canicule ou moins, on a besoin un petit peu de ventilation. Et puis, sans s'y attendre, soudainement un frelon a pénétré dans la voiture. Alors imaginez-vous, hein, on connaît les abeilles, on connaît les guêpes, on connaît le bourdon, quelquefois ça nous arrive de l'avoir, en se réveillant le matin, mais le frelon, c'est quand même la catégorie supérieure. Hein. Vous savez, c'est la grosse guêpe, hein, jaune-brune, hein, c'est 3 fois plus gros ou 4 fois plus gros qu'une une simple guêpe, c'est très désagréable. Alors, par la vitesse, où les vitres étaient ouvertes, naturellement, je l'ai dit, elle a pénétré donc dans la voiture. Il se trouvait que ce garçon était allergique. Allergique aux piqûres d'insectes. Voilà. C'est pas toujours très, très agréable, hein. Bon, ce que l'on connaît le plus souvent, c'est les piqûres de moustiques. Hein. Vous savez, qui vous font passer des nuits blanches, même quand il fait très noir. Hein. Ça, c'est, et voilà, l'histoire. Il était sensible aux allergies, donc aux piqûres. Et ce garçon, compte tenu des risques et sachant les risques qu'il pouvait avoir, a pris peur. Il s'est trouvé dans la panique à un moment donné. Il a crié, il a gesticulé auprès de son père. Alors, son père a fait une chose. Il a lâché une main du volant. Et il a tendu le bras vers le frelon. Peut-être était-il collé sur la vitre. Et il a pris le frelon dans le creux de sa main. C'est pas mal, hein? Quand vous savez que ça peut... Oui, en principe, ce genre de petite bête, elle reste pas inoffensive, hein, elle reste pas inactive. Alors, il a serré ce frelon, il l'a emprisonné dans le creux de sa main, tout simplement. Et il l'a gardé comme ça, quelques instants. Et après l'avoir fortement serré, il l'a relâché brutalement à l'extérieur. Voilà. Vous vous imaginez ce qui a pu se passer entre-temps. Là, il y avait aussi un ennemi, naturellement. L'enfant regarde son père, il est livide, il tremble, et il ne cesse de crier son effroi, alors que finalement le danger est fini pour lui. Le danger est écarté pour lui. Alors le père a fait cette chose suivante pour tenter de rassurer son enfant. Il a montré sa main. Le frelon était parti, naturellement. Il a montré sa main à son fils, dans laquelle était planté, tout simplement, le dard du frelon. Visible. Vous savez, quand c'est une guêpe ou une abeille, on voit pas grand-chose. Hein. On voit bien que c'est un peu rouge. Mais là, franchement, c'était véritablement une épine. Et qui déjà commençait à rougir et à enfler, c'était quelque chose qui pouvait augurer, eh bien, certainement, de la souffrance et de la douleur. Alors il l'a montré à son fils. Il regarde bien. Tu vois ce qui s'est passé. Il lui a dit, mais ne crains rien. N'aie pas peur. Tranquillise-toi. J'ai pris l'aiguillon à ta place. Voilà. J'ai pris l'aiguillon à ta place. Vous savez qu'il y a un texte dans Corinthiens. Je voudrais simplement le lire. Et vous allez voir, il est question d'un aiguillon également. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, si ma mémoire est fidèle. Il est dit ceci. Il est parlé de l'aiguillon de la mort. Ça pouvait être un risque de mort pour ce garçon qui était allergique. Il est parlé de l'aiguillon de la mort. Il est dit, au chapitre 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est le mal, c'est l'état de l'humanité sans Dieu, avec ses rébellions, avec toutes ses caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques du bien mais du mal, l'égoïsme, le mensonge, la haine, et puis tout ce qui va avec, je ne vais pas vous les citer, mais c'est, il est dit, l'aiguillon du péché, et il nous est dit, la puissance du péché, c'est la loi. Je vous ai parlé de la loi tout à l'heure, je vous ai parlé de la foi. Qu'est-ce qui excite finalement le mal en chacun d'entre nous? C'est parce que Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. À partir du moment où il y a une interdiction, c'est comme s'il y avait un processus dans notre nature humaine à vouloir le faire et à transgresser l'interdit. Si Dieu nous a interdit, c'est pas pour nous interdire et de dire je suis Dieu et vous, vous êtes que des créatures mauvaises et méchantes, mais c'est pour nous préserver. La compréhension de la loi de Dieu, c'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous prévenir que ce dard-là, cet aiguillon-là, il porte en lui-même la mort. Et à partir du moment où Dieu nous a dit, eh bien, il y a ceci, il y a cela, c'est pour que nous puissions tout simplement lui faire confiance, croire ce qu'il nous dit, c'est vrai, et échapper à la mort. C'est une préservation. Dieu ne veut pas que nous arrivions à la guérison, il veut la nous prévenir le mal. Voilà. Mais ça, c'est la loi. Parce qu'elle a une puissance, la loi. Paul le dira, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et je me trouve avec un combat, je me trouve avec une lutte, une dualité. Mais c'est terrible. Dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit, c'est un champ de bataille. Romains, chapitre 7. Relisez-le parce que c'est très instructif. Mais nous sommes tous à la même enseigne, les uns et les autres. Et nous voyons que dans cette parole, il nous est dit, mais la puissance du péché, c'est la loi. Et Dieu savait très bien qu'il y avait un régime pour, autrefois pour Israël, qui était la loi, mais comme les hommes sont incapables de vivre dans la loi et de satisfaire à la loi, il fallait changer de régime. C'est pour ça qu'ensuite, il est venu ce qu'on appelle la nouvelle alliance à travers le Nouveau Testament, la venue de Jésus, où, eh bien, nous sommes sauvés, non pas par notre obéissance qui est impossible, mais nous sommes sauvés par notre confiance de quelqu'un qui a obéi à Dieu à notre place, parfaitement, et c'est ainsi que nous sommes justifiés, que nous sommes rendus justes. Non pas par la loi, mais par la foi. Ça va? C'est pas trop compliqué? J'essaie d'expliquer. Pas toujours évident. Mais alors, Paul dira après, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez bien. Écoutez bien, la victoire, ça ne sera pas notre victoire. Ça ne sera pas nos débats et nos cogitations. Ça ne sera pas nos efforts. Ça ne sera pas de faire ceci ou cela. C'est tout simplement parce que je mets ma foi en Jésus. Le tout accompli est prononcé, il a été prononcé, et il est prononcé pour tous les hommes dans tous les temps. Tout est accompli. Et c'est parce que je fais confiance. Alors à ce moment-là, il va se passer un processus dans lequel nous connaissons, par lequel nous sommes passés et que nous vivons encore, parce que nous sommes finalement et bien encore que des hommes avec une nature charnelle et humaine. C'est qu'à un moment ou un autre, les choses vont se faire à l'intérieur de nous-mêmes. Le Saint-Esprit va travailler en nous une œuvre de compréhension, une œuvre où nous allons acquérir cette nature au fur et à mesure de notre vie. Croyez bien que vous n'allez pas vous coucher ce soir et que demain matin vous serez complètement transformé, vous serez un ange. C'est pas ça. Mais toute notre vie, ce sera ça. Mais à un moment ou à un autre, nous allons comprendre, nous allons réaliser que c'est véritablement Christ et Christ seul. Et nous allons nous abandonner entre ses mains. Nous allons abandonner notre vie. Et là, nous allons cesser de nous batailler, cesser de contester, cesser de nous laisser accuser par l'adversaire, cesser de ceci, cesser de cela, et nous allons trouver la paix et la joie. C'est pas plus difficile que ça. Et nous allons rentrer dans une dimension de paix et de joie, d'assurance et de certitude. Et là, nous pouvons dire, comme nous le chantons à chaque fois, parce que j'espère qu'on ne chante pas seulement des paroles, mais on le chante dans l'esprit, c'est que on peut dire, mais je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Mais il m'a sauvé de tout. Il m'a pas sauvé seulement du péché, il m'a sauvé de moi-même. Il m'a sauvé de l'adversaire. Il m'a sauvé de tout ce qui bouillonnait, de tout ce qui était volcanique à l'intérieur de moi-même. Alors ça, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est quelque chose de formidable. Et je vais simplement terminer par rappeler ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ouais. Mes souffrances, mes souffrances physiques, mes tourments moraux, mes luttes spirituelles, c'est lui qui les a portées, pour que je ne sois plus astreint à les porter moi-même. Et je me décharge sur lui. C'est Jacques qui dit ceci, ou c'est Pierre, peu importe, hein, qui écrit ça dans une de ses lettres. Il dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tout fardeau, car lui-même prend soin de vous. » Quel bonheur et quelle grâce lorsque nous pouvons nous tenir devant Dieu, après être fatigués, lassés, parfois découragés du combat que nous avons mené, et que nous tombons à genoux devant le Seigneur en disant, « Seigneur, je n'en peux plus. » Alors à ce moment-là, bien le Seigneur, il dit, « Tu n'en peux plus ?» Eh bien maintenant, c'est moi qui vais pouvoir faire quelque chose, parce que tant que tu en peux encore, excusez-moi l'expression, tant que tu peux encore, je peux rien faire avec toi, tu es toujours en train de te débattre. Tu es toujours en train de bouger dans un sens et dans un autre, j'arrive pas à te... Mais à ce moment-là, tu te confies complètement, et c'est moi qui te... Alors, nos souffrances, c'est lui qui les a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est vrai. Quelquefois nous avons une idée de Christ, hein, qui est complètement erronée, parce qu'on se dit s'il est mort à la croix, et c'était certainement ce que pensaient ses contemporains et ses ennemis, ben, s'il est mort c'est que finalement eh bien, il méritait de mourir, alors que Jésus ne mérite pas de mourir, lui ne méritait pas, nous oui, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Eh oui, tout ça c'est Christ qui l'a accompli. Et en poursuivant, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ouais, pour chacun, sans exception de personne. Ça, c'est l'œuvre de Christ, et c'est le message de l'Évangile dont nous avons besoin vraiment eh bien, de réaliser, et de pouvoir tout simplement nous approcher de Dieu, en nous souvenant de cette petite image que nous avons prise, le Père qui sauve finalement son Fils. Et on s'aperçoit que la malédiction s'est changée en bénédiction, que la condamnation s'est changée en salut, que notre peine et nos tristesses se sont changées en joie et en allégresse. Et ce n'est pas fini, parce que ce que nous connaissons déjà de paix, maintenant dans notre relation avec Dieu et avec nos semblables, de l'autre côté, je peux vous dire que ça sera l'idéal et ça sera la perfection. Alors que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et retenons ce principe, retenons ces principes essentiels de l'Évangile, que nous sommes sauvés par Jésus, et uniquement et simplement par la foi, nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est merveilleuse, mais nous croyons, Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'une démarche intellectuelle pour comprendre tout cela. C'est vrai que nous pouvons comprendre avec notre intelligence, mais cela est complètement et totalement insuffisant. Nous savons que la seule compréhension qui nous est nécessaire, c'est lorsque nous sommes éclairés par ta parole, illuminés par ton Saint-Esprit. Alors en effet, Seigneur, ta parole devient vivante à ce moment-là. Ta parole devient réalité pour nous. Et Seigneur, nous réalisons que le grand prix de l'amour de Dieu, manifesté pour chaque homme, pour chaque femme, pour tous ceux et celles qui sont véritablement, Père éternel, et bien malheureux, dans la peine, dans toutes sortes de situations, Seigneur, de désespoir, nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul, qui a accompli ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, c'est-à-dire, et bien là, cette mort à la croix, et en croyant que Jésus a pris notre place, que le tout accompli a été prononcé, Seigneur, sur nos vies, sur ma vie, à ce moment-là, je peux m'abandonner tout simplement en confiance et ainsi réaliser que la parole de l'Évangile, qui est avant tout une bonne nouvelle, eh bien, elle est faite pour tous les hommes qui s'abandonnent, tous les hommes qui renoncent à eux-mêmes, tous les hommes qui cessent de mener le combat par eux-mêmes, mais qui, véritablement, Seigneur, se confient en toi. Ta parole est claire. Tu nous dis que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu ni confus. Et c'est une réalité, qu'il en soit ainsi, pour tous ceux et celles qui ont écouté, qui écoutent ta parole. Et nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.